BW. Vue d'Allemagne.
L'Aude à la joie, l'hymne européen du compositeur allemand Beethoven en cette semaine d'élection au Parlement européen. 360 millions de personnes appelées aux urnes, 65 millions en Allemagne. Quelle ambiance dans le pays avant ce vote? On se penche sur le sujet ensemble. Et puis l'Europe, construite sur les ruines laissées par la Seconde Guerre mondiale. Il y a 80 ans, en ce mois de juin, des nazis assassinaient tout un village en France. On est sur place dans quelques minutes.
Il va y avoir une détonation dans le village, donc simultanément dans tous les lieux de massacre masculin, les hommes sont mitraillés.
Vous écoutez Vue d'Allemagne, Hugo Flotatalon, micro, Los Gates, c'est parti. Près de 360 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes jusqu'à ce dimanche 9 juin au soir en Europe, élection pour le Parlement européen. 720 députés à élire pour les 5 ans à venir dans les 27 pays de l'Union. Une élection où la droite radicale semble se profiler dans les sondages. En haut des thèmes qui font beaucoup parler dans cette campagne, les politiques environnementales, migratoires ou encore la guerre en Ukraine.
DW.
L'Allemagne est scrutée de près dans ce scrutin par les autres pays parce que la République fédérale, forte de ses près de 84 millions d'habitants, va envoyer le plus gros contingent de députés au Parlement européen. 96 sièges sont réservés à l'Allemagne. Ce dimanche 9 juin, ce sont donc 65 millions de personnes qui sont appelées à voter ici. Toutes les personnes avec la nationalité allemande ou une autre européenne de plus de 16 ans. Ce vote des 16 ans, Anne Le Touzé vous en parlait la semaine dernière, ici. Il y a 5 ans, la participation à ces élections européennes avait fait un bond en Allemagne avec plus de 61% de votants. Pas sûr que ce soit ainsi cette année.
DW.
La campagne pour ces européennes s'est faite sous tension en Allemagne, marquée notamment par une violente agression d'un eurodéputé écologiste qui collait des affiches. Il a été tabassé en pleine rue et a dû être opéré le mois dernier à Dresde. Vous l'entendez quelques jours après, d'autres militants écologistes étaient agressés devant les caméras de la DW. Des attaques verbales et physiques qui se sont multipliées dans cette campagne, touchant tous les partis. Cela a été très médiatisé, tout comme les propos polémiques de la tête de liste de l'extrême droite et les soupçons d'ingérence russe et chinoise autour de ce parti, l'AfD. Et pourtant, l'engouement pour cette campagne électorale européenne n'est pas au plus haut. Un sondage récent arrivait à la conclusion que près de 48% des Allemands et Allemandes se disaient peu ou pas intéressés par la campagne. Et cela, malgré les affiches accrochées aux lampadaires et autres lieux de passage dans toutes les rues du pays, malgré l'engagement de 30 grandes entreprises allemandes qui ont multiplié les communiqués vidéo et écrits appelant leurs 1,7 million de salariés à voter et voter contre, je cite, la haine, le populisme et l'extrémisme, et malgré aussi l'engagement encore de citoyens, des militants politiques ou syndicaux pour appeler à la mobilisation.
DW.
Exemple de ce manque d'intérêt pour la campagne, pour la DW, notre collègue Sonny Lalsand est allé tout récemment à Eberswald, une petite ville de 40 000 habitants dans le land de Brandenburg, autour de Berlin. Les sociodémocrates organisaient une réunion publique avec leur tête de liste, vice-présidente du Parlement européen déjà, Katharina Barley. Le parti avait distribué 2500 tracts, accroché des affiches et loué une immense salle de cinéma avec 2000 places. Résultat, 20 étaient occupés au moment de la réunion.
L'Europe est un thème trop loin des préoccupations de beaucoup de gens.
Voilà comment le responsable du SPD local, Kurt Fischer, explique alors ce manque d'intérêt. Et il y a du vrai, pour beaucoup, l'Europe est éloignée, difficile à comprendre, peu présente dans les médias aussi, rien à voir avec des élections fédérales.
Lors des élections fédérales, il y a le sentiment de participer à l'élection du chancelier directement. Là, ce n'est pas le cas, cela attire moins.
Reste que dans 9 Bundesländer sur les 16 du pays, ce dimanche, les européennes sont couplées à des élections locales qui souvent mobilisent davantage. Alors est-ce que cela aidera à ce que les électeurs qui se déplaceront de toute façon pour les élections locales votent aussi en même temps pour les européennes? Réponse avec ce responsable du SPD.
Personnellement, je pense que le regroupement des votes aide. On a ici des affiches pour des élections locales avec des visages connus. Les gens vont aller voter pour les élections communales et là, je pense qu'ils feront en même temps leur vote pour les élections européennes.
DW.
Alors, que voteront ceux qui le feront? Des sondages ont lieu régulièrement et les trois partis au pouvoir dans la coalition sont plutôt mal partis. Sociaux-démocrates, écologistes et libéraux sont inquiets. Car en tête des intentions de vote, ce sont les conservateurs, l'opposition actuelle à la coalition au pouvoir en Allemagne, qui joue naturellement sur les problèmes nationaux pour faire campagne pour ces européennes, comme l'explique même, sans s'en cacher, Markus Söder, le ministre-président de Bavière de l'Union CDU-CSU.
Natürlich ist es auch eine nationale Wahl.
Bien sûr, c'est aussi une élection nationale, car les sondages ne sont pas seulement influencés par les idées européennes, mais aussi par l'ambiance en Allemagne ou dans certains autres pays. C'est pourquoi nous devons penser aux deux en même temps.
Dans les sondages, les conservateurs sont donc autour de 30% des intentions de vote, devant les sociaux-démocrates autour de 15-16%, suivi de l'extrême droite, le parti AfD, autour de 15%. Si cela se confirmait, ce résultat, cela serait une poussée par rapport à 2019 pour l'extrême droite. Les écologistes sont bien plus bas, entre 12 et 14% selon les sondages. Là, ce serait une dégringolade par rapport aux dernières élections. Et puis à noter, un nouveau parti dans cette élection, le BSW, l'Alliance Zara Wagenknecht en français. L'ancienne députée d'extrême gauche a lancé son propre mouvement en début d'année. Il prône notamment la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine et un durcissement des politiques migratoires. Alors comment tout ce dont on vient de parler se traduira dans les urnes ? Réponse après les premiers dépouillements dimanche soir en Allemagne et dans toute l'Europe.
Vous écoutez la DW.
Vue d'Allemagne, deuxième partie, on commémorera le 10 juin prochain les 80 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane, le plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944. Les nazis ont tué la totalité ou presque des habitants de ce village du centre-ouest de la France en quelques heures. Les hommes ont été abattus, femmes et enfants massacrés, et puis une grande partie du village ensuite incendiée et pillée. Seulement 6 personnes survivront, dont un certain Robert Ebras, mort l'année dernière. C'est désormais sa petite-fille Agathe qui continue à garder vivant son témoignage. Niklas Munch l'a rencontré au milieu des ruines d'Oradour.
Les rues existent encore, mais les hommes n'y sont plus. Ici, chaque pierre raconte l'histoire d'une femme ou d'un homme.
C'est 11 hectares de bâtiments, c'est plus de 300 bâtiments. Ça permet de comprendre que c'est un village tout entier qui a été anéanti en quelques heures, que c'est un massacre de masse.
Agathe Ebras est la petite-fille du dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. Au printemps 1944, des soldats allemands de la Waffen-SS, la division Das Reich, passent par le Limousin, une région du centre de la France réputée résistante. Dans plusieurs villes, ils lynchent, pendent, brûlent et fusillent des civils innocents. Leur but, semer la terreur. Le message se veut clair. Si vous êtes contre nous, voyez ce qui va se passer. À Oradour, ils rassemblent tous les habitants au champ de foire et divisent ensuite la population. Les enfants et les femmes sont amenés à l'église, les hommes dans une grange.
Donc là, c'est la grange Lodi.
Agathe s'arrête devant un préau. C'est ici que son grand-père, Robert Ebras, a failli trouver la mort.
Une fois que les armes sont installées, il va y avoir des soldats qui va rentrer dans la grange, qui va faire signe à ceux qui sont assis de se lever. Il va y avoir une détonation dans le village, et cette détonation, c'est le signal de l'exécution des hommes. Donc simultanément, dans tous les lieux de massacre masculin, les hommes sont mitraillés.
Robert Ebras est touché. Une balle dans la jambe, une dans la poitrine, une dans le bras.
La fusillade et la mitraille durent quelques dizaines de secondes. Et donc lui qui est à l'arrière, effectivement, a été protégé par les autres. Et en chutant, eh bien, il est tombé, les autres sont tombés sur lui. Et donc il se retrouve recouvert par les corps de ses camarades. Les soldats, après la fusillade, vont pénétrer dans la grange, rentrer et vont achever ceux qui sont encore en vie. Mon grand-père dit, moi j'ai un de mes camarades qui a la tête sur ma cuisse, il lui tire une balle dans la tête et je le sens mourir sur moi. Et à ce moment-là, je sais que je suis en vie, je suis sous les autres, ils ne voient pas que je suis en vie et donc ils ne m'achèvent pas.
Les soldats allemands mettent le feu à la grange. Robert Ebras parvient à s'enfuir sans que les Allemands ne le voient. Ce jour-là, au total, 643 personnes ont été tuées, la quasi-totalité du village. Seules 6 personnes survivront à la barbarie des SS. Robert Ebras, lui, ne perdant seulement ses voisins et ses amis, mais aussi sa mère et sa sœur, brûlés vives dans l'église. À la fin de la guerre, Oradour-sur-Glane devient un lieu de mémoire. Les ruines ont été conservées. Aujourd'hui, on peut visiter ce qui reste de ce village. Un lieu devenu au fil du temps la raison d'être de Robert Ebras. Dès les années 80, il fait de la transmission de mémoire sans combat, milite contre l'oubli, pour la paix. Mais au début, s'engager pour la réconciliation franco-allemande, c'était tout sauf évident.
Aujourd'hui, c'est intégré, mais il est extrêmement novateur à ce moment-là. Quand il porte ces idées-là, et c'est vraiment quelque chose qu'il a porté jusqu'à la fin. Je me souviens, enfant, moi, il m'a toujours dit « tu iras en Allemagne et tu auras des relations avec l'Allemagne parce que c'est très important et qu'une des clés, c'est des relations entre Oradour et entre l'Allemagne qui sont fortes. Ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait autre chose que ces atrocités qui puissent lier ces deux peuples. »
Au point qu'en 2013, Robert Ebras accueille pour la première fois les deux présidents, allemand et français, chez lui à Oradour. En février 2023, il meurt à l'âge de 97 ans. Aujourd'hui, ce combat pour la mémoire, c'est devenu celui de sa petite fille, Agathe. Si pour elle, c'est naturel, ça l'est beaucoup moins pour la nouvelle génération. Il faut donc innover.
Moi, je suis jeune et donc j'ai envie de m'adresser aux plus jeunes. J'ai aussi envie de m'adresser à un public plus large. Longtemps, Oradour a été réservé à des élites et donc j'estime que ça ne doit pas être réservé à des élites. Il faut qu'on puisse aller aussi sur d'autres types de médias qui sont beaucoup plus accessibles. C'est le cas des réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui sont très bien faites et donc qui sont accessibles à d'autres tranches de la population. Les plus jeunes, aujourd'hui, lisent beaucoup moins la presse. En revanche, ils écoutent beaucoup de podcasts.
Il y a quelques années, elle a invité un des youtubeurs les plus connus de France pour faire parler d'Oradour et après avoir sorti un livre avec son grand-père, elle a participé à la création d'une BD. En sortant du village martyr, un chemin mène au centre de mémoire. Accroché au mur, des portraits des victimes. On y comprend qu'Oradour, c'était surtout des femmes et des hommes, des mères et des pères, des filles et des fils. Le message est clair. Ce qui s'est passé ici peut se reproduire ailleurs.
Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société contemporaine, on voit qu'il y a des choses qui nous ramènent à Oradour-sur-Glane. L'actualité, moi, quand mon grand-père a découvert Boutchka et la guerre en Ukraine, il a dit, voilà, Oradour, c'était ça. La montée des extrêmes, en Europe en général et en France, allume chez nous, qui sommes directement concernés, des voyants de vigilance. Moi, mon grand-père m'a toujours dit, attention, il faudra faire attention à certaines choses. L'homme est l'homme. Et il a des travers qui se répètent sans cesse.
Pour les commémorations des 80 ans du massacre d'Oradour, une délégation d'Ersbruck est invitée sur place. C'est une petite ville à côté de Nuremberg en Allemagne. La commune va signer un traité d'amitié avec le nouveau village d'Oradour. Une première et surtout un geste fort. Car à Ersbruck se trouvait une annexe du camp de concentration de Flossenbürg. Niklas Mönch à Oradour-sur-Glane pour la Deutsche Welle.
Merci à vous et merci à Agathe Ebras pour ce témoignage. Vue d'Allemagne prend fin pour cette semaine. Prochain numéro à la radio la semaine prochaine et en podcast aussi, quand vous voulez, sur toutes les applications dédiées. En attendant, merci de nous avoir suivis. Bis bald, à très bientôt. Tschüss.